chronique de Philippe Jorgensen.
Le sujet de la chronique d'aujourd'hui est celui des retraites. Retraite, est-ce un futur sans avenir ? La réforme des retraites revient en effet en force dans l'agenda politique. Elle devrait être l'un des grands débats de cette année. Le sujet est pourtant bien périlleux. On se souvient du propos de Michel Rocard, il y a 20 ans déjà, selon lequel il y a là de quoi faire sauter 5 ou 6 gouvernements. De fait, plusieurs trains de réformes se sont déjà succédés sur ce sujet, de la réforme Balladur à la loi Fillon et dernièrement à la révision, largement en trompe-l'œil, il est vrai, des régimes spéciaux. Pourquoi donc y revenir ? Ce n'est, on s'en doute, pas par masochisme politique, mais bien parce que le sujet est incontournable. Le déficit annoncé initialement pour 2020 par le Conseil d'orientation des retraites, dont le nouveau rapport vient de sortir, sera atteint dès 2012. Il égalera cette année 11 milliards d'euros pour la sécurité sociale et 25 milliards pour l'ensemble des régimes de pension. Au-delà de cette impasse financière, les réalités démographiques imposent un constat simple. On ne pourra pas maintenir un niveau convenable de retraite alors que la durée de vie s'allonge si nous n'acceptons pas de travailler plus longtemps. Commençons par le rappel des faits. En France, comme dans tous les pays industrialisés, mais aussi désormais dans de grands pays émergents comme la Chine, le vieillissement de la population s'accentue. Cette évolution est due autant à une natalité trop faible, qui fait qu'il n'y a pas assez de jeunes pour remplacer les actifs atteignant l'âge de la retraite, qu'à l'allongement de la durée de vie moyenne de chacun. On sait que nous gagnons chaque année presque un trimestre de vie en plus, ce qui est heureux en soi, mais les conséquences sur les retraites n'en ont pas été tirées. Depuis l'époque où l'âge légal du repart à la retraite a été fixé à 60 ans, nous avons gagné 7 ans d'espérance de vie et pouvons donc profiter en moyenne d'une retraite pendant 7 années supplémentaires. Pour le dire autrement, l'équivalent de la retraite à 60 ans de 1982 serait aujourd'hui une retraite à 67 ans. Quelques chiffres. Au niveau de l'Union européenne, la part des moins de 15 ans dans la population, déjà faible de ces 27 pays, a reculé de 2 points au cours des 10 dernières années. Elle est à 15,7% au lieu de 17,7%. Dans le même temps, celle des personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté parallèlement de près de 2 points à 17% au lieu de 15,3% il y a 10 ans. En France, la situation est légèrement meilleure, légèrement seulement, les moins de 15 ans représentant encore 18,5% de la population contre 16,4% pour les 65 ans et plus. Mais la tendance est la même. Le nombre des plus de 60 ans, retraités potentiels, a augmenté de moitié depuis la fixation de l'âge de la retraite à ce niveau. Nous sommes aujourd'hui, je peux le dire, j'en fais partie, 14,5 millions. Si l'on prend en compte d'un côté la tendance, bonne par elle-même, à l'allongement des études et de la formation initiale, et de l'autre l'allongement de la vie en retraite, on constatera qu'une personne qui entrerait sur le marché du travail à 25 ans, à la fin de ses études, pour le quitter à l'âge légal de 60 ans, aura en gros travaillé 35 ans pour être financée par les actifs pendant 45 ans. Il est clair qu'une telle situation est difficilement tenable. Elle se traduit d'ailleurs par une baisse inexorable du ratio technique qui exprime le mieux la situation, à savoir le nombre de cotisants par retraité. Ce ratio, dit de dépendance démographique, est en chute libre. Il était de 4 en 1960, de moins de 2 aujourd'hui, 1,8 exactement, et tombera à 1,5 d'ici 10 ans et aussi bas que 1,2 d'ici le milieu de ce siècle, si rien ne change. Il faut bien comprendre que ces évolutions structurelles sont largement indépendantes de la conjoncture. Bien sûr, il est très regrettable que la crise et le chômage ajoutent leurs effets à cette situation en réduisant le nombre d'actifs cotisant à plein. Mais même avec des hypothèses optimistes de retour à la croissance et au plein emploi, comme celle qu'envisageait naguère le corps, le problème n'est que faiblement atténué. Il faut donc adopter des remèdes de fond. Tous sont désagréables à considérer, un seul est véritablement efficace. La première réponse serait une réduction du niveau des retraites. Il est vrai qu'au fil des ans, ce niveau s'est bien amélioré et que les revenus de remplacement, comme le disent les techniciens, représentent aujourd'hui une part plus élevée des salaires d'activité que ce n'était le cas il y a quelques décennies. Les retraités ne sont plus systématiquement paupérisés, c'est un progrès social dont il faut se réjouir. Mais il a évidemment un coût. Aujourd'hui, sur une masse salariale totale d'environ 400 milliards d'euros en France, les cotisations retraite, obligatoires et facultatives, en prélèvent près du tiers. Il est certainement politiquement difficile de baisser le niveau des pensions. Le président de la République a d'ailleurs exclu d'emblée cette piste des travaux qui vont être menés. Cependant, il faut savoir qu'elle est en réalité discrètement appliquée depuis des années par les gestionnaires des régimes de retraite. En effet, celles-ci sont désormais le plus souvent calées sur l'indice des prix, ce qui préserve au moins le pouvoir d'achat des retraités, mais non sur le niveau des salaires, ce qui ne les fait pas participer aux progrès de productivité qui permettent d'améliorer le niveau de vie des salariés. Ce système devra sans doute être généralisé là où il ne s'applique pas encore. Mais il est bien sûr difficile d'aller au-delà. La deuxième piste serait le relèvement des cotisations. Elle a trop souvent peut-être été utilisée dans le passé. Un Français né en 1930, par exemple, a cotisé en moyenne au taux de 11,6% par employeur incluse. Né en 1940, il a cotisé en moyenne 16%, alors que le taux actuel des prélèvements pour l'assurance vieillesse dépasse 25% pour ceux qui cotisent donc encore aujourd'hui. Mais cette piste trouve ses limites dans les problèmes de compétitivité auxquels sont déjà confrontées nos entreprises. Ces problèmes de compétitivité se traduisent malheureusement en termes de délocalisation et donc de perte d'emploi en France, ainsi que de déficit de nos échanges extérieurs qui pèsent à la fois sur l'emploi et sur la croissance. Les partenaires sociaux semblent pourtant s'apprêter à réclamer de nouvelles hausses de cotisations. Il serait déraisonnable à mon sens d'aller dans cette voie et d'ajouter encore à un niveau de charges sociales et de prélèvements obligatoires qui est déjà parmi les plus élevés. Rappelons que le taux de transfert public français représente déjà plus de la moitié de la richesse nationale, 56%, un niveau qui n'est dépassé que par un ou deux pays dans le monde. J'en arrive à la seule véritable solution, travailler plus longtemps, c'est-à-dire retarder l'âge effectif de départ à la retraite. Je rappelle que le taux d'emploi des 60 à 64 ans est en France parmi les plus faibles du monde, 16% seulement, soit 1 sur 6, sont au travail, contre 30% en moyenne européenne. Or, il faut bien comprendre qu'une population active plus nombreuse ne serait pas une charge, mais un atout pour un pays. Comme le disait si bien, il y a quelques siècles, le philosophe Jean Bedin, il n'est de richesse que d'hommes. N'est-il pas regrettable de voir des personnes riches d'expérience et en pleine santé quitter la vie active, alors qu'ils seraient très utiles au pays en poursuivant leur travail? Pour prendre un exemple concret, nous allons voir notre industrie nucléaire civile, affaiblie par des départs massifs à la retraite, alors même que nous peinons à fournir la demande électrique dans les périodes de pointe et qu'il va falloir relancer les investissements. On peut faire des constats analogues, par exemple pour le corps enseignant ou pour le personnel hospitalier. Bien entendu, il faut distinguer selon les situations et notamment tenir compte de l'âge auquel le salarié a débuté son activité et de la pénibilité de son travail. Il est légitime qu'un mineur, un chauffeur routier, un pêcheur, etc. puissent partir plus tôt que d'autres. Et il est normal de ne pas appliquer un âge couperet pour tous, mais de raisonner plutôt en termes de durée de cotisation. C'est bien sur ce point qu'il faut agir. La durée normale de cotisation a été portée à 40 ans pour tous, elle montera à 41 ans d'ici 2012, mais il est inévitable qu'elle soit allongée progressivement, non pas d'une seule, mais de plusieurs années. Inévitable aussi qu'un certain nombre d'avantages annexes, comme l'attribution de points de retraite gratuits, soient sérieusement révisés, car leur charge représente à elle seule un cinquième de la dépense totale. Peut-on s'en contenter et ne pas toucher à l'âge légal de la retraite, fixé à 60 ans depuis une génération, qui a pris l'allure d'un tabou? Je ne le crois pas. Précisément parce qu'il s'agit d'un symbole et qu'il est important de faire comprendre à l'opinion publique que l'âge normal de départ, sauf circonstances particulières que j'ai évoquées, est plutôt de 62, 63 et même 65 ans. Rappelons simplement deux faits. D'une part, l'âge légal de départ à la retraite est déjà fixé à 65 ans chez tous nos grands voisins de l'Union européenne. Allemagne, Royaume-Uni, Italie pour les hommes, Espagne. Le gouvernement socialiste de ce dernier pays propose même de le porter à 67 ans, comme c'est déjà le cas dans certains pays scandinaves. D'autre part, la tendance regrettable des entreprises à se débarrasser de leurs salariés les plus proches de 60 ans, par exemple par des pré-retraites, fait qu'actuellement, à peine plus du tiers des Français âgés de 55 à 65 ans est au travail, 38% contre 45% en moyenne européenne. Un tel gaspillage humain n'est pas supportable dans la durée pour notre société. Pour que ces questions difficiles soient bien comprises et que chacun adhère à la nécessité d'un effort commun, il importe de rendre notre système plus transparent. En premier lieu, les Français sont très attachés au maintien du système de retraite par répartition plutôt que par capitalisation. Encore faut-il bien comprendre ce qu'est la répartition. Il s'agit d'un système dans lequel on ne constitue pas de réserve pour l'avenir, mais où les prestations servies aux retraités sont financées en temps réel par les cotisations des actifs. Avec la baisse dont j'ai parlé du nombre de cotisants par retraité, on voit bien que cette règle va connaître de sérieuses difficultés. Il paraît donc important que les régimes actuels à prestations définies, comme on dit, dans lesquels un revenu donné en euros, calculé à partir du salaire de référence, est versé à chaque retraité, soit remplacé par des systèmes plus lisibles. Un système par points dans lequel chaque actif accumule des droits qui seront ensuite valorisés au moment de sa retraite, ou un système de compte notionnel dans lequel le montant de la pension versée est fonction de l'espérance de vie moyenne du salarié au moment de son départ à la retraite. C'est ce que propose, avec semble-t-il le soutien de la CFDT, le rapport du COR, de nouveau lui le Conseil d'orientation des retraites, qui vient de paraître. Un deuxième élément de transparence serait de simplifier l'organisation qui s'est complexifiée au fur et à mesure qu'étaient mis en place des droits successifs de couverture retraite, chacun avec ses règles propres de gestion. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, pour servir le minimum vieillesse, volet de sécurité pour tous, les retraites complémentaires obligatoires gérées par l'ARCO pour les non-cadres et complétées par l'AGIRC pour les cadres, les régimes de retraite dits surcomplémentaires, gérés par de nombreuses institutions de prévoyance ou assureurs, auxquels s'ajoutent les régimes ad hoc montés par certaines entreprises ou les fameuses retraites chapeaux des dirigeants. Faire la clarté dans ce maquis serait, dans l'idéal, un élément important d'une réforme des retraites que chacun pourrait comprendre et admettre. La politique de l'autruche, consistant à nier ou à minimiser le problème, ou à espérer une solution miraculeuse pour le résoudre, reviendrait en fait à laisser la charge de trouver une solution aux générations futures. Comprenons que c'est notre devoir, même s'il demande un certain courage, de faire en sorte qu'elle n'ait pas un futur sans avenir.